Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. La redécouverte de la musique ancienne par ceux qu'on a surnommés les baroqueux a permis de retrouver, ou tout du moins d'approcher, un environnement sonore et des gestes instrumentaux du temps de Lully, Bach et Rameau. Le chant, la gestuelle et bien sûr la danse n'ont pas échappé à cette recherche historique qui visait à rendre les œuvres d'artistes morts plus vivantes que jamais, à faire de l'art baroque un art contemporain. C'est sur cette tension entre hier et aujourd'hui, sur ce grand écart entre le passé et le présent, cette réconciliation apparemment impossible que Chantal Lapeyre, mon invitée, nourrit une réflexion fructueuse sur notre rapport au temps et à la perception de l'histoire. Fiction nécessaire pour une danse baroque contemporaine de Chantal Lapeyre, édité par le Centre National de la Danse. Les tambourins extraits des éléments de Jean-Ferry Rebel, les musiciens du Louvre, placés sous la direction de Marc Minkowski. Bonjour Chantal Lapeyre.
Bonjour.
Vous êtes professeur en littérature contemporaine française à l'Université de Paris-Cergy et donc l'auteur de cette réflexion sur à la fois le temps et sur la danse baroque. Peut-être faut-il commencer par expliquer le titre « Fiction nécessaire », on verra peut-être un peu après, mais pour une danse baroque contemporaine. On frise l'oxymore.
Oui, peut-être. Justement, le but de ce livre était de montrer qu'il n'y avait rien là d'oxymorique.
Mais bien sûr,
puisque, ouais. Au fond, cette danse que porte Marie-Geneviève Massé et quelques autres habite pleinement l'espace contemporain. Et la volonté, enfin, le désir qui porte ce livre était de montrer qu'on pouvait être contemporain autrement, avec d'autres, selon d'autres modalités, d'autres manières de faire, et qu'il était possible de en particulier pour cette danse dite baroque, dont je rappelle que c'est la danse des 17e et des 18e siècles, et que le nom est un nom tardif,
bien sûr, oui.
Tardvenu. Cette danse, donc, elle existe aujourd'hui, elle a toute sa place aujourd'hui. Donc, le but de ce livre, c'était de montrer cette contemporanéité de ce qui n'avait pas, à première vue, l'air d'être contemporain du tout.
Mmh. Voilà. Et votre réflexion repose sur l'examen du travail donc de Marie-Geneviève Massé, que vous avez cité tout à l'heure, donc cette chorégraphe et qui a fondé donc cette compagnie L'Éventail en 1985 et qui propose depuis cette époque de nombreux spectacles associés de musique baroque avec évidemment de la danse. Le répertoire baroque est quand même, j'ai envie de dire, à la mode depuis les années 70, 80. Il y a eu la grande redécouverte en 86, 87 d'Attis, de Lully, avec William Christie, Jean-Marie Villégier et Francine Lancelot, qui a été vraiment une pionnière dans le domaine. Est-ce que, aujourd'hui, Chantal Lapeyre, la danse a la place qu'elle mérite dans justement le travail que l'on fait sur la redécouverte, par exemple, de l'opéra français, dans lequel la danse a l'importance que l'on sait?
La danse n'a clairement pas toute la place qu'elle mérite.
C'est un peu ce qui me semblait aussi.
Parce que, alors c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, vous l'avez dit vous-même, elle vient tardivement. Elle est née, si je puis dire, des travaux menés dans les années 70-80 par Francine Lancelot, mmh. avec Antoine Geoffroy de Chaume, avec Philippe Bosson, dans tout cet espace de redécouverte de ce moment où on a redensifié cette musique baroque. Et elle a eu une notoriété qui était importante, mais relative à certains cercles, et elle a difficilement été portée auprès du grand public. Justement, tout l'enjeu du travail de L'Éventail dans sa résidence à Sablé, c'est de rendre cette pratique chorégraphique accessible au plus grand nombre, en pariant sur le fait qu'elle est véritablement accessible. Et c'est sans doute ce qui fonde aussi l'existence de ce livre, c'était, j'avais envie de lui donner place, de mettre en valeur ce travail. Et comme vous l'avez dit, en prenant appui sur les œuvres créées par Marie-Geneviève Massé depuis 85, c'est-à-dire la totalité, sauf les documents manquants, les documents qui n'étaient, les cassettes vidéo qui ne fonctionnaient plus, etc. Enfin voilà. Mais comme je le dis aussi dans le livre, en fait, on travaille avec ces manques, et l'important n'est pas exactement dans l'exhaustivité, même si elle est très très importante. Mais l'important, c'est d'essayer de déceler quelle est cette poétique et cette poétique à l'œuvre chez Marie-Geneviève Massé.
Thank you.
Le concert des nations dirigé par Jordi Savall, c'était un extrait du Donjon, la Gavotte très précisément, de Gluck. Chantal Lapeyre, on a expliqué la deuxième partie du titre de votre ouvrage. La première, fiction nécessaire, au pluriel.
Alors, fiction nécessaire, c'est l'hypothèse qui guidait la recherche, c'est-à-dire que pour ces créateurs, pour ces artistes contemporains, l'enjeu est de créer à partir de sources qui sont parfois éminemment lacunaires, éminemment trouées. Et il s'agit aussi pour eux de répondre à la question très simple. S'agira-t-il de reconstituer, de recréer ou de faire quelque chose d'absolument neuf avec les éléments de vocabulaire dont nous disposons aujourd'hui. Et mon idée était que, dans tous les cas, les réponses à ces questions-là, assumaient pleinement un parti pris de fiction, puisqu'on ne pouvait pas être sûr du tout de faire quelque chose à l'identique, comme à l'époque, comme
bien
disent
sûr,
les praticiens de cet art.
Ouais.
Et donc, il y a une part... Oui, il y a une part d'invention, il y a une part de trouvailles inattendues. Le Don Juan de Gluck,
ouais.
Marie-Geneviève Massé a chorégraphié, assume pleinement sa part de fiction, puisque à partir du texte, elle n'a pas hésité à utiliser des figures du Don Juan de Tirso de Molina, du Don Juan de Molière, et à construire quelque chose, sa propre lecture du mythe de Don Juan, qui assume une part largement fictionnelle. Et encore pour le Don Juan de Gluck, a-t-on un certain nombre de documents. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses autres pièces. On a mentionné tout à l'heure Atys, c'était déjà vrai, il n'y avait que peu de danses. Francine Lancelot a chorégraphié des danses pour Atys. Marie-Geneviève Massé procède de la même manière. Elle va chorégraphier là où on n'a pas de traces, là où il manque. Donc, aucune fidélité historique
n'est possible
véritablement. Une autre fidélité est possible.
C'est comme pour Atys, d'ailleurs, Villégier, le metteur en scène n'arrêtait pas de répéter à qui il voulait bien l'entendre que c'était pas une reconstitution, mais il avait imaginé cet univers baroque, cet opéra de la fin du XVIIe siècle. On n'était pas dans l'archéologie, mais vraiment dans la création artistique.
Voilà, c'est ça. Et c'est cette part de création que j'ai appelée fiction nécessaire. Nécessaire, oui, parce qu'on ne peut pas y échapper. Ces fictions irréductibles. Et la particularité, me semble-t-il, de Marie-Geneviève Massé, c'est de prendre en charge pleinement et très consciemment, très volontairement, cette dimension de fiction et d'en faire un enjeu et un moteur de la création également.
Et je recommande d'ailleurs à nos éditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas très bien l'univers de Marie-Geneviève Massé, de son travail et de sa compagnie L'Éventail, d'aller sur le site. Il y a beaucoup de photos, de vidéos, on voit un peu, effectivement, et tout de suite on comprendra ce que vos arguments, on voit bien qu'il y a parfois des costumes modernes, choses comme
c'est
ça. On n'est
pas
du tout dans la reconstitution avec les perruques et les bougies. Enfin, c'est une autre option esthétique, mais ça n'est pas la sienne. De toute façon, vous avez évoqué des sources lacunaires, parfois quasiment inexistantes. Évidemment, pour l'artiste, c'est une liberté plus grande.
C'est une liberté, c'est une angoisse en même temps. Quand on essaie de reconstituer, recréer une pièce dont on a conservé la partition, le livret, mais on n'a rien sur le plan chorégraphique. C'est une liberté, mais elle est un peu contrainte et elle est un peu angoissée par nécessité, puisque on a le souci, enfin les créateurs ont le souci de composer quelque chose qui soit en résonance étroite avec un substrat d'ensemble, et c'est très compliqué finalement.
Ouais, ouais. Vous citez un auteur qui dit que le souci de reconstitution est de toute façon impossible, mais en même temps nécessaire. C'est-à-dire que c'est une direction, mais on sait très bien que le but est inaccessible.
C'est Jean-Noël Laurenti qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui le souligne. On peut aussi imaginer que, enfin, c'est ce que fait Marie-Geneviève Massé. Il y a une part de son travail qui est consacrée à des remise, je ne sais plus quel mot utiliser moi-même, remise à la scène d'œuvres du répertoire, mais il y a une part aussi énorme de création personnelle, ce qu'elle appelle, dans les entretiens qu'elle m'a accordés depuis 2016, les spectacles que personne ne m'a demandé. Et dans ces spectacles-là, elle va mobiliser le vocabulaire baroque, elle va mobiliser tout un imaginaire baroque, pour créer des pièces absolument originales. Et c'est cette liberté-là qui existe véritablement. Pour rendre cette démarche possible, il suffit de s'appuyer... Enfin, il suffit. Et elle choisit de s'appuyer sur les traités de l'époque qui précisent ce que sont les pas de la chorégraphie.
Caractère dirigé par Sébastien Desrains, c'était un extrait de l'Europe galante d'André Campra, une des œuvres qu'a monté Marie-Geneviève Massé avec sa compagnie L'Éventail, Chantal Lapeyrin, puisque donc, les œuvres que j'ai choisies ont été montées par la compagnie L'Éventail.
Oui, les œuvres que vous avez choisies ont été à la base de quelques-uns des spectacles les plus frappants de la compagnie L'Éventail au fil des années, en effet.
Mmh. On a abordé tout à l'heure, Chantal Lapeyrin, les moyens que les artistes avaient, les sources dont ils disposaient, puis les moyens, leur imagination qui était mise à contribution dans ce genre de projet. Mais le public, c'est aussi une question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque vous parlez de danse baroque contemporaine, donc on comprend bien que ces œuvres des années 1680, 1700, 1720 puissent être immédiatement reçues par un public de 2020, 2022. Comment est-ce qu'on appréhende cette distance entre l'œuvre d'art et le public ? Là, évidemment, la question dépasse le simple fait de la danse. Ça peut aussi être la peinture, l'architecture. Si vous parlez aussi de monuments, la réception des monuments, du patrimoine. Comment est-ce que vous envisagez la chose et comment Marie-Geneviève Massé appréhende cette distance?
Alors c'est un champ éminemment compliqué. Le public, je crois, a toujours l'espoir, quand il voit un spectacle, de le voir comme il était à l'époque.
C'est ça.
C'est souvent le malentendu un peu fondamental entre les artistes et le public. Alors, simplement, je ne voudrais pas généraliser à outrance parce que tous n'ont pas les mêmes prises de position à l'égard de ce problème. Dans le cas de Marie-Geneviève Massé, je crois que c'est une chorégraphe qui particulièrement pense le temps comme distance, comme écart. Le fossé entre le XVIIe siècle et aujourd'hui est infranchissable. Et la question qui domine, me semble-t-il, dans son travail, c'est comment créer avec cette distance qui semble si tranchée et si invincible. Et je crois qu'elle va tirer parti de cet écart pour... c'est cet élément-là, je veux dire, qui va déterminer ce qui est sa poétique. Alors concrètement, ça ne signifie pas qu'on va mettre au goût du jour, que les œuvres vont être reprises pour parler immédiatement dans des problématiques qui nous sont familières aujourd'hui, alors que celles qui sont développées dans les pièces ne le seraient pas. Non, elle va essayer de... Il y a tout un travail de traduction, de stylisation, de transposition, etc., extrêmement fin et qui fonctionne très bien, si l'on en juge par la réaction du public. Mais il faut toujours redire, je crois, que je parle de manière beaucoup plus générale, on essaie de donner un aperçu de ce qu'étaient certaines de ses œuvres, mais ce ne sera qu'un aperçu qui sera toujours médiatisé par un regard.
Et est-ce qu'il y a quelques informations clés qui peuvent apparaître dans des éléments ou de décor ou des costumes, ou au contraire on fait abstraction de ça, c'est-à-dire reconstitution d'un décor qui pourrait ressembler à ce que pouvait être un décor du XVIIe et des costumes d'époque, ou au contraire on s'abstrait totalement de ça? Comment est-ce que vous ça vous paraît envisageable
Alors, il est très difficile de généraliser. Moi, je peux vous parler du travail de Marie-Geneviève Massé, qui va parfois être très proche de l'œuvre et vraiment travailler. C'est par exemple ce que Marie-Geneviève Massé fait avec Vincent Tavernier, dans certains cas, être très proche de l'œuvre source, vraiment utiliser les éléments qui sont disponibles, viser une certaine vraisemblance peut-être, mais ce n'est pas la seule possibilité qu'elle envisage.
Thank you.
La chaconne des Scaramouches, Trivelin et Arlequin, extrait du Malade imaginaire de Lully Molière. C'était le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Chantal Lapeyre, je voudrais qu'on revienne à un élément quand même essentiel de cette danse baroque. C'est, vous le mentionnez dans votre livre, c'est le côté quand même très élégant, très lettré, j'ai envie de dire.
Oui, très lettré, très littéraire.
Et littéraire
il me
aussi,
semble
oui.
que la singularité de la danse de Marie-Geneviève Massé est précisément là. C'est sans doute une des danses les plus littéraires de la période contemporaine. Alors, pour plusieurs raisons, mais là, je pourrais énoncer simplement la plus évidente, c'est l'importance capitale des lectures dans son travail de création. Alors, lecture et relecture des œuvres du répertoire, enfin, des pièces de théâtre, des opéras, évidemment, enfin, des livret d'opéra, mais aussi lecture de toutes sortes périphériques pour nourrir son travail. C'est une dimension qui est vraiment capitale, qui est commune à beaucoup d'autres chorégraphes dans la période contemporaine. Mais le texte, là, par son ancrage historique, prend une dimension absolument capitale pour cerner les enjeux de cette pratique chorégraphique.
Qui est une tendance qui n'est pas forcément généralisée, parce qu'on a pu voir quand même des opéras baroques dans lesquels les épisodes chorégraphiés étaient confiés à des chorégraphes qui justement ne voulaient rien entendre de la danse baroque.
Alors, ils ne voulaient rien entendre de la danse baroque, mais ils entendaient quelque chose du texte.
Bien sûr.
Mais c'est Marie-Geneviève Massé, j'étais amenée à penser que finalement son travail pourrait être nommé ainsi. Il pourrait s'agir d'une interprétation textuellement informée, puisque sa lecture des textes est précise et scrupuleuse et qu'elle fonde ses choix chorégraphiques. Et quand je dis les textes, je parle aussi de la musique en réalité, puisque son écoute du texte musical participe de ce mouvement d'extrême attention.
Comme on dit pour les musiciens historiquement informés aujourd'hui.
C'était exactement à cela que je faisais référence.
Très bien, très bien. Merci beaucoup Chantal Lapeyre. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions du Centre National de la Danse, Fiction nécessaire pour une danse baroque contemporaine. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Adelino Mello, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Laetitia Leguet et nous parlerons de Béla Bartók. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique, bien sûr.
À réécouter sur francemusique.fr.